Oui, j'ai terminé en disant que cette espèce de triple alliance, qu'on peut appeler triple alliance, mais encore une fois, il faut pas avoir une vision complotiste de l'histoire, hein, comme on voit sur Internet, des complots
Non, c'est des choses
partout,
qui se
etc.
sont faites par
Voilà.
concours de circonstances.
Voilà, voilà. Ouais. Et donc, quelque chose naît fin du 19e siècle qu'on appelle aujourd'hui l'eugénisme. L'eugénisme, c'est quoi en fait? C'est un espèce de dérivé du darwinisme.
Mais pas trop.
Qui est qui naît en Angleterre, aux États-Unis, en Angleterre avec Galton et aux États-Unis avec l'American Breeders Association en 1903, et qui comment dire, qui prône le fait de sélectionner
L'espèce.
l'espèce humaine. Et ça vient, comment dire, ça vient de les American Breeders Association, c'est l'association américaine des semenciers. Et ça, comment dire, c'est une pratique antédiluvienne dans l'humanité. C'est-à-dire, depuis longtemps, les paysans savent croiser les plantes, les animaux, etc. Mais ce qui se produit à la fin du 19e siècle, c'est ce phénomène extrêmement important à comprendre, c'est que dans les villes, il n'avait jamais existé auparavant. Quand on lit les rapports, ce que j'ai lu de Villermé, quand il se balade en France en 1836, dans les années 1834 à 1836, il se balade dans toute l'industrie textile, c'est-à-dire le tissage, enfin plus que le tissage, toutes les opérations qui concernent le coton, le lin et la laine. À Montpellier, il va à Lyon, il va à Belfort, il va en Lorraine, il va dans le nord de la France, il va à Rouen et il fait un rapport pour l'Académie des sciences morales et politiques parce qu'on lui a demandé de faire un rapport sur l'état de l'industrie textile. En fait, qu'est-ce qu'il constate? C'est que dans les villes, il y a une concentration de personnes qui s'est faite extrêmement rapidement et dans des conditions terribles, quoi. C'est-à-dire que, un, les hommes, les femmes et les enfants travaillent dans les usines, dans les fabriques et sous les métiers à tisser ou à côté des métiers à tisser. Et en général, leurs heures d'absence du domicile, c'est entre 13 h et 15 h. C'est-à-dire, la moyenne de travail à cette époque-là, en 1836, dans toutes les villes que je vous ai citées et dans l'industrie textile, c'est environ, suivant les villes et les industries, environ 13 h de travail, plus l'heure à midi pour manger, plus les allers-retours qui souvent se font à pied. Mais bon, à l'époque, beaucoup de ces industries sont dans les villes et les gens sont venus à s'agglutiner autour des usines, et surtout par rapport à ce qui se passe dans la paysannerie. Mais je ne vais pas expliquer là. Mais la grande hypocrisie de l'historiographie officielle, c'est de dire qu'il y a eu un exode rural, comme si un jour les paysans, ils avaient voulu s'exiler de leur terre pour venir en ville. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Ça fait référence au remembrement des terres, au fait que y a la propriété terrienne qui change de nature, les cultures aussi qui changent, surtout en Angleterre, comment dire, le fait qu'il y a une imposition par tête des paysans, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de sortir de l'argent, donc ils sont obligés d'avoir des revenus, mais en même temps, ce qu'ils faisaient pendant la saison qu'ils appelaient les saisons mortes, par exemple pendant l'hiver pour les paysans, c'est-à-dire ils faisaient des sabots, ils faisaient des vêtements, etc., etc. Tout ça, à partir du moment où l'industrie fabrique elle-même ses produits beaucoup plus rapidement, qu'elle inonde les marchés et à moindre coût, bah, les paysans, ils peuvent plus avoir cette activité pendant la saison morte, pour qu'il fasse à la fois qu'ils les occupaient et qu'ils faisaient rentrer un peu d'argent. Donc l'exode rural qu'on apprend à l'école, etc., c'est une grande hypocrisie. C'est-à-dire, il n'y a pas un exode parce qu'un jour, les gens ils se sont dit, allez, ça y est, on s'en va en ville. On en a marre de la terre, les paysans. Nous, on ne veut plus être paysans, être des cutéreux et à faire un travail difficile. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. C'est autre chose, beaucoup plus compliqué encore que ce que j'explique maintenant. Donc, comment dire, il y a ce phénomène-là, et dans les villes, en fait, il y a ce qu'on appelait une classe ouvrière après qui se constitue, mais qui vit dans des conditions misérables, parce que sont des vies dans... Bon, il n'y a pas des choses comme l'eau courante, les toilettes, les conditions d'hygiène, etc., etc. Et donc, et ça, c'est une concentration presque, comment dire, forcée. Le mot me vient pas, c'est pas forcé en fait, mais c'est quelque chose qui attire par le fait que ça détruit les autres possibilités de vivre pour les paysans, par exemple. Et donc, ça attire plein de gens. Et il y a des milliers, par exemple, à Belfort, c'est Villermé qui dit ça, il y a 50 000 ouvriers, quoi. Qu'à l'époque, c'est un truc, c'est énorme, quoi. Et dans une ville comme Belfort, qui comptait beaucoup moins d'habitants que ça, quoi. Et donc, ils vivent dans des conditions de... Si vous voulez avoir une idée dans des conditions dans lesquelles vivaient ces ouvriers, ces ouvrières, c'est-à-dire hommes, femmes et enfants, hein, parce que les enfants travaillaient aussi dans les fabriques. Hein. Faut voir le film qui s'appelle 1945 de Ken Loach, merci, qui vient d'avoir aussi pour la deuxième fois la palme à Cannes, là. Et 1945, ce sont des films documentaires, en fait, sont des archives des années 1930 en Angleterre, 30 et 40. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, et vous voyez donc ces habitations dans les villes industrielles d'Angleterre, vous vous dites, mais qu'est-ce que ça devait être au 19e siècle? Mais il faut vraiment avoir vu ça une fois. Comprendre l'histoire, c'est pas seulement de comprendre les grandes lignes de l'histoire et avoir des concepts. C'est aussi être capable de s'imaginer comment les Grecs vivaient à l'époque quand on met les pieds au théâtre d'Épidaure. Avec un beau bouquin, on essaye de comprendre comment ça se passait, pourquoi ils allaient au terme, pourquoi il y avait le théâtre qui durait pendant 3 jours, etc. C'est ça aussi l'histoire. C'est pas seulement des dates et des trucs, comment dire, abstraits, quoi. C'est ce qui se passait pour les êtres humains. C'est ça l'histoire, en fait, en vrai. C'est
Mais
ça.
très organisé sur la mémoire collective, alors que prendre une mémoire individuelle, regroupée, comprend tellement de choses, parce qu'on a beaucoup plus de points de vue.
Et alors, pourquoi je dis ça, en fait? C'est parce qu'il y a, comment dire, quelqu'un qui est un théoricien qui s'appelle Karl Polanyi et qui a dit, je ne retrouvais pas la citation, mais je l'ai dans, enfin, je l'ai à la maison, mais où s'il y avait un manuscrit là, je pourrais la retrouver, mais qui dit, en fait, pour imaginer qu'est-ce que c'était la vie des ouvriers au 19e siècle, essayez de comprendre, parce que c'est passé à peu près la même chose, quand les colons européens débarquent en Afrique, en fait, et par exemple quand ils commencent aussi au niveau du commerce triangulaire, ce qu'on appelait le commerce triangulaire, en fait, quand les blancs occidentaux débarquent en Afrique, ils détruisent tout de ce qui constituait la vie matérielle, la vie socio-culturelle, les relations familiales, les relations à la terre, en fait, ça bouleverse totalement la vie des Africains. En tout cas, dans les comptoirs et proche des comptoirs, hein, dans un premier temps, hein, pas forcément dans l'intérieur des terres. Mais ça bouleverse, comment dire, mais il y a des conséquences anthropologiques même, il y a des conséquences sociologiques, psychologiques, ça bouleverse toute la vie de A jusqu'à Z. Et il dit, si vous voulez comprendre qu'est-ce qu'a fait le capitalisme en Angleterre, parce qu'il parle de l'Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle et dans une période assez rapprochée, eh bien, ayez toujours ça en tête. C'est-à-dire, en fait, ça a été aussi violent, l'introduction enfin, si on peut parler d'introduction, parce que ça vient des Européens, mais le fait que le capitalisme se soit installé en Europe, ça a été un bouleversement de toute la vie, de A jusqu'à Z, en fait, des Européens. Et, bon. Et donc, cette classe ouvrière vivait dans des conditions misérables. Mais le problème...
C'est des paysans qui viennent avec leur culture de paysans, qui n'ont plus du tout aucun, comment dire, exutoire, aucune façon de mettre à contribuer, de pratiquer au quotidien cette culture, et qui sont réduits à une misère de reproduction de leur force de travail. Enfin, voilà.
Ce qu'on est en train de dire, on peut l'observer encore. Si tu vas à Mexico, si tu vas à Lima, si tu vas dans, moi c'est une des grandes villes que je connais un petit peu, tu vois exactement ce que Jean-Marc vient de décrire. Des gens qui viennent de leur campagne. Bon, au Mexique, c'est très simple. Les gens à la campagne n'ont plus de quoi vivre. Parce que s'ils font pousser du maïs, qui est la base de leur alimentation, qui est le blé pour les gens du 19e siècle en Europe, bon, s'ils font pousser du maïs, ils sont en concurrence avec les maïs transgéniques qui viennent des États-Unis, qui sont vendus à un prix inférieur. Donc il faut qu'ils aillent travailler. Parce que ce qu'ils ont sur leur terre ne suffit pas pour manger. Et le maïs arrive à un prix défiant toute concurrence sur leur marché. Donc ils vont se regrouper. C'est comme ça que la ville de Mexico croît de presque 7% par an. Par an.
Donc ce mécanisme, effectivement, il est encore à l'œuvre et toujours à l'œuvre. Je voudrais juste attirer l'attention sur quelque chose de ça, c'est au niveau conceptuel, très très important. Ça, c'est Majid Ralema, c'est quelqu'un qui a travaillé pour les programmes de développement pendant 30 ans et puis après qui a écrit des bouquins en disant, bon, pendant 30 ans, on n'a fait que des conneries dans le tiers-monde et des graves, des conneries graves. Il attire l'attention sur une chose suivante, c'est que sur la différence entre misère et pauvreté. Et un de ses bouquins s'appelle La puissance des pauvres. Il explique que les paysans, quand ils sont encore sur leur terre, etc., etc., ils ont la puissance d'un certain nombre de savoirs de gens qui ne sont pas hors sol, qui sont connectés à la vie et à la vie sur terre. Et par contre, ces mêmes paysans, lorsqu'ils sont obligés, parce que le marché capitaliste a détruit la possibilité pour eux de vivre, soit en s'accaparant leur terre, soit en faisant en sorte que leur production ne soit plus rentable parce qu'ils produisent à moins cher d'une autre manière, eh bien, quand ces gens-là, ces paysans, se retrouvent, comment dire, déplacés de leur univers, mais pas seulement de la terre, de tout leur univers, hein, mental, familial, etc., à la ville, ben, ça devient de la misère. Les pauvres peuvent être très riches. Les pauvres peuvent être très riches. Par contre, les gens, les mêmes, ou les gens qui vivent en ville, peuvent être des misérables. Ça, c'est la misère. Parce qu'ils sont déconnectés de la réalité, déconnectés de leurs racines, déconnectés de leur vie, déconnectés de tout un monde et de savoir, parce que ça ne leur sert plus à rien en ville.
C'est une expression chère, d'ailleurs, enfin, cette distinction. Ça me fait penser au situationniste qu'il employait, qu'il invoquait assez souvent, pour décrire la condition des petits cadres laborés, qui viennent s'entasser dans les villes, ouais. C'était la misère. Et un certain nombre de leurs thèses, d'ailleurs, s'appellent Misère.
Les misères au milieu étudiant.
Voilà.
Le premier texte situationniste était paru en, je crois, 66-67 à l'université de Strasbourg, qui s'appelait De la misère au milieu étudiant. Et là, c'était assez féroce contre les étudiants, qu'il comparait aux flics et aux curés. Directement à l'emporte-pièce.
Oui, alors pourquoi je parlais de ça? Pourquoi je parlais du déracinement des paysans? Parce que c'est les paysans qui faisaient 95% de la population, je ne sais plus, 90%, je ne sais rien, de la population et de leur déracinement, et qui passaient de la pauvreté qui était très riche, une vie très riche, même si elle était dure, à quelque chose d'encore plus dur. Quand ils se retrouvaient dans les fabriques, mais qui était la misère. C'est une différence fondamentale, hein, conceptuelle au niveau philosophique, c'est très très différent, hein, entre la pauvreté et la misère. Ça, c'est important à comprendre. Parce que par ça, on peut comprendre aussi ce qui s'est passé entre les pays de l'Est, par exemple les Allemands de l'Est, et après la chute du mur de Berlin. Je vous laisse réfléchir à ça. Je parlais de ça parce que à ce moment-là, au 19e siècle, ça s'étend, ce phénomène on appelle ça après de la classe ouvrière, qui vit dans des conditions misérables. Et dans ces conditions misérables, je crois que je l'ai écrit quelque part, les épidémies, etc., ça se propage évidemment, puisque les conditions sont tellement terribles pour les gens, quoi. Ça se propage. Et en face, on a une classe bourgeoise qui se constitue aussi elle-même, hein, d'entrepreneurs, comme on dit maintenant, etc. Et comme il y a cette espèce de domination du mode de connaissance scientifique à travers le darwinisme, à travers la biologie, etc., et que la classe bourgeoise, en tant que, elle a, quand une classe se constitue, elle a besoin aussi de se constituer sa propre histoire et ses propres concepts et sa propre idéologie, comme on dit, et sa justification en tant que nouvelle classe qui arrive dans l'histoire, quoi. Elle est obligée même de s'inventer une histoire en tant que classe. Et en fait, au fur et à mesure des révoltes qui se passent partout dans tous les pays européens, par exemple en 1848, il y a des révoltes partout dans toute l'Europe, mais partout elles sont matées par le sang. Et parce que c'est une classe ouvrière qui n'est pas encore domptée, quoi. Qui a encore en elle des ressorts de réagir à ce qu'elle subit jour après jour, mais en même temps elle est dans des conditions terribles. Alors la bourgeoisie à ce moment-là a une grande angoisse, et en même temps elle désigne cette classe comme classe dangereuse, parce qu'elle peut se révolter, elle peut faire des barricades, etc. Donc bon, après on sait même au niveau urbain comment Haussmann réagit à la Commune de Paris en faisant des grands boulevards, de façon à ce qu'on puisse aligner des canons pour empêcher que les barricades puissent se construire. Ça n'a pas empêché les étudiants de faire des barricades en 68 dans le quartier latin. Mais ce que je voulais dire, c'est que, en même temps que ces classes laborieuses là, qui sont vues comme des classes dangereuses, ça c'est un truc classique dans l'histoire, mais en même temps, elles sont désignées comme classes, parce qu'il y a des épidémies qui peuvent se répandre rapidement, etc., et qu'elles vivent dans des conditions terribles, comme classes qui sont des ferments c'est comme ça qu'ils le disent, des ferments de dégénérescence de la race blanche. C'est-à-dire, parce que avec le darwinisme, même avec le malthusianisme avant, mais le darwinisme, ça, le darwinisme, pas la sélection naturelle, pas l'évolution, hein, je parle du darwinisme, c'est autre chose, je ne peux pas rentrer dans les détails. Mais l'interprétation darwinienne de la bourgeoisie, c'est la chose suivante, c'est pour que la race blanche reste forte, il ne faut pas donner des subventions aux pauvres, parce que si on donne des subventions et si on donne des allocations aux pauvres et des aides sociales aux pauvres, ou si on leur donne un meilleur salaire, ça va, et comme les pauvres se reproduisent vite, ça va faire en sorte que tous ces pauvres-là vont contaminer la race blanche, et ça va devenir un danger, alors que si on ne leur donne pas d'allocations, si on ne leur donne pas d'aide sociale, et si on maintient le salaire juste ce qu'il faut pour la survie, ils vont pas se reproduire aussi vite, donc il n'y aura pas de danger pour la race blanche, quoi. En fait, il y a derrière ça un truc de domination, quoi. Non, la race blanche. Ils l'étendent parce qu'ils ne peuvent pas dire à la race bourgeoise.
Oui, parce qu'ils sont blancs aussi.
Oui, d'une part parce qu'ils sont blancs, mais parce que c'est une justification à travers le mode de connaissance scientifique. Il faut que ça prenne, si tu veux, un vernis scientifique pour être justifié. Et en fait, le mode de connaissance scientifique va justifier ça après à travers l'eugénisme qui va dire tous les gens qui sont fous, mal formés, déficients, vieux, mal nés, etc., il faut les comment on appelait ça,
éliminer,
euthanasier.
Avant ça, empêcher qu'ils se reproduisent, le mot stériliser, merci, voilà, stériliser. Les premières lois, c'est aux États-Unis, en Indiana, en 1907, mais les dernières lois à être abolies, c'est en 1972, en Suède. Donc, c'est un mouvement de masse aux États-Unis, dans le premier 20e siècle, vers 1900, etc. C'est un mouvement de masse. Vous pouvez voir sur Internet, il y a des photos où il y a des réunions dans les États, et les médecins et les scientifiques sont à fond la caisse là-dedans. C'est-à-dire, il faut protéger la pérennité de la race blanche, et que la race blanche soit en bonne santé, etc. Donc, il faut stériliser tous ceux qui sont déviants. Et après, ça va dévier vers tous les vieux, tous les malades mentaux, etc., etc. Et après, il y a tout un tas de trucs, avec les premiers camps de concentration du XXe siècle qui sont en Namibie, c'est-à-dire dans une colonie allemande, et où les héréros et les namas vont être les peuples à être les premiers génocides du XXe siècle. Et ceux qui restent vont être dans des camps de concentration. On va les marquer au fer rouge et on va envoyer leurs crânes à Berlin, au Wilhelm Institut de Berlin, pour faire des mesures médicales. Et dès ce moment-là, en 1904, ça c'est en 1904, dans ces camps de Namibie, qui est une colonie allemande, il y a déjà le célèbre docteur Mengele qui fait des expériences en 1904. Tout ça, je le dis, pourquoi? Parce que c'est là où la psychanalyse nous aide. Ouf! Alors, qu'est-ce que, une des choses que dit, que nous apprend la psychanalyse, mais même avant ça, les anthropologues d'ailleurs, et les ethnologues, elle dit quoi? Elle dit que y a des interdits ou des tabous fondateurs de toute vie sociale. Un interdit ou un tabou fondateur en ethnologie ou en anthropologie ou en psychanalyse, c'est le tabou du meurtre, par exemple. Ça veut dire qu'il ne peut pas exister de vie sociale entre les êtres humains s'il n'y a pas ce tabou du meurtre. C'est-à-dire, s'il n'y a pas quelque chose qui interdit de tuer son prochain, on ne peut pas vivre en société, il ne peut pas y avoir de culture, il ne peut pas y avoir de société, pas de civilisation. Donc c'est un tabou, c'est un interdit, mais qui est fondateur. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, j'ai vécu dans les années 60 où tout ce qui était... Il y avait un slogan célèbre qui disait il est interdit d'interdire. Ça voulait dire, en gros, qu'il ne peut pas y avoir de tabou, qu'il ne peut pas y avoir d'interdit. Mais en fait, si, il y a certains tabous qui sont fondateurs de toute vie sociale, ces tabous-là. Là, j'attire sur un autre. Ce n'est pas un point de vue moral, ça, hein. C'est un point de vue d'anthropologue, d'ethnologue ou de psychanalyste. Moi, je n'ai pas de point de vue moral là-dessus. D'ailleurs, je me méfie de la morale je ne me suis pas fabriqué moi-même ma propre morale et que c'est un prêt-à-porter qu'on m'a fourni clé en main, si j'ose dire. Ça, je me méfie de ce genre de truc. Donc, je n'ai pas un point de vue moral là-dessus. C'est un point de vue, encore une fois, soit ethnologique, soit anthropologique, soit psychanalytique. C'est important. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où l'eugénisme, c'est un mouvement de masse aux États-Unis, soutenu par des scientifiques et soutenu par des fondations et soutenu par l'État. C'est aussi un mouvement de masse en Allemagne, en Suisse et dans tous les pays du Nord, essentiellement les pays réformés. Mais par contre, ça n'est pas du tout un mouvement de masse dans les pays catholiques, genre France, Espagne, Portugal, Italie, pas du tout. Par exemple, en France, il y a quelques centaines de personnes, ce que c'est rien, que dalle, quoi, par rapport à ces pays-là du Nord ou les pays anglo-saxons. Ça ne marche pas. Après, moi, je me pose des questions et je n'ai pas résolu le problème. Mais l'histoire, c'est ça. La vraie histoire, c'est ça. Et pourquoi je parle de ça? Parce que, en fait, à partir du moment où ça devient un mouvement de masse, ça veut dire que, par exemple, enfin, je dis ça par rapport à des. Il y a encore aujourd'hui, on n'a pas compris qu'est-ce que c'était Auschwitz. Ce que moi j'appelle Auschwitz-Birkenau, j'aime pas ce mot de Shoah ou Holocauste, c'est des mots religieux, j'aime pas ça. C'est-à-dire la tentative d'extermination des juifs d'Europe, mais aussi des tziganes, des opposants politiques, des homosexuels, etc. Et comme dit Shlomo Sand, il y a à peu près 5 millions de juifs qui sont passés par les chambres à gaz, mais il y a aussi 5 millions d'autres personnes qui ont été aussi zigouillées parce qu'ils étaient soit déviants, soit opposants politiques, tziganes, homosexuels, etc. Il n'y a pas que des juifs, mais il y a eu aussi des juifs. Ça, il ne faut pas... pas oublier non plus. Mais je dis ça pourquoi? Parce que ce que j'avance, moi, c'est que en fait, l'explication habituelle du nazisme et de Auschwitz-Birkenau, ça c'est les noms des deux camps qui étaient voisins, il y a eu la défaite de l'Allemagne, et le traité de Versailles qui était une vexation pour eux, il y a eu les dommages de guerre que l'Allemagne ne pouvait pas payer parce qu'ils étaient vachement lourds, il y a eu la République de Weimar qui est tombée en 1919 sous le coup des corps francs à l'époque, je passe très vite, hein. Il y a eu ensuite toutes les années 30 et la dévaluation connue du Mark, etc., etc. Tout ça, c'est vrai. Et il y a eu les SA qui ont pris le relais des corps francs et ensuite les SS. Il y a eu le Parti National Socialiste qui s'est fondé, etc. Tout ça, je le reconnais et tout le monde est d'accord là-dessus. Mais moi, simplement, ce que je dis, c'est que ce qui s'est produit en Occident au début du XXe siècle, avec l'eugénisme comme mouvement de masse, ce n'était ni plus ni moins que un tabou fondateur de toute société, de toute civilisation qui était tombé. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où ce tabou qui tient la société tombe, à ce moment-là, on se retrouve quelque part autorisé à dire « Mais vous, parce que vous êtes juif, vous devez mourir. » et vous devez disparaître du globe, ou vous parce que vous êtes homosexuel, ou vous parce que vous êtes zigane, ou vous parce que vous êtes opposant politique, vous devez mourir, quoi. C'est ça, ça facilite ce genre de choses, et en fait c'est une transgression majeure dans l'histoire qui permet un redoublement de cette transgression dans la guerre 14-18. Je dis juste un mot là-dessus, juste un. Reste une minute. C'est que, en principe, justement, les déclarations de guerre officielles d'un État à un État, par exemple, le gouvernement français dit « Je déclare la guerre au gouvernement allemand, en fait, à l'Allemagne, etc. » Qu'est-ce que c'est quand on analyse de point de vue psychanalytique? C'est en fait, c'est on donne l'autorisation aux citoyens qui sont enrôlés dans l'armée de tuer. Parce que, comme on dit, on appelle ça en psychanalyse, c'est le grand autre qui... comment on peut appeler ça? C'est les institutions qui prennent sur elles le fait de transgresser ce tabou fondateur du meurtre. Parce que s'il n'y avait pas une déclaration de guerre, on ne peut pas dire aux gens, bon, allez, aujourd'hui, on s'en va tous, je vais vous donner des fusils et on va tuer des Allemands. Non, ça ne marche pas comme ça. En fait, c'est l'État, justement parce que c'est devenu un État, une État-nation moderne, etc., parce qu'il est organisé, etc., qui est en position en même temps de dire, c'était déjà le cas avant, hein, mais là, c'est un État qui est très, très solidement implanté, bureaucratisé, etc., mais ça a toujours été comme ça, mais c'est l'État qui permet de transgresser ce tabou fondateur de toute vie sociale, qui est le tabou du meurtre. C'est ça la déclaration de guerre, quand on l'analyse d'un point de vue psychanalytique. C'est, moi, l'État, je vous autorise à tuer et à devenir des tueurs. Et comment dire, c'est moi, je prends ça sur moi que vous deveniez des assassins. En fait, bon, en fait, c'est ça, je veux dire, dans la guerre, c'est de dire, se dire aux gens, vous allez assassiner d'autres personnes. Mais on n'appelle pas ça assassinat. On dit, c'est la guerre, et puis vous êtes dans les tranchées, les petits gars, je siffle le truc, à l'attaque, tout le monde à la baïonnette. Et on transperce les autres qui sont en face à 30 mètres, on les trucide, on les assassine en fait. C'est des assassinats, ouais, en fait, en réalité. Et en fait, les déclarations de guerre, ça sert à ça. Et en fait, ce qui se passe entre 1914 et 1918, par le fait que ce soit la première guerre industrielle, que ce soit une guerre totale, ça veut dire que ça... Bon, je ne vais pas rentrer dans le truc. Ça veut dire que ça englobe toute la population civile aussi, qui est déclarée, qu'on vise aussi pour affaiblir, soi-disant, le moral de l'ennemi. Donc c'est une guerre industrielle, c'est une guerre totale avec des armes de destruction massive comme les gaz, par exemple. En fait, c'est une guerre qui, malgré le fait qu'il y ait une déclaration de guerre, en fait, par tous les soldats, au jour le jour, c'est vécu très très mal, parce que c'est tellement violent, c'est tellement au jour le jour. En moyenne, pendant 4 ans, je l'ai fait le calcul, en moyenne, il y a 13 000 personnes qui meurent seulement en France, en moyenne, chaque jour, quotidiennement. En août 14, en une seule journée, 26 000 morts uniquement du côté français, le 23 ou le 24 août 1914. Donc vous imaginez la boucherie. Mon grand-père m'a raconté des trucs là-dessus, il était à la guerre. C'est une boucherie. Et en fait, malgré la déclaration de guerre, pour la plupart des poilus, c'est vécu quand même comme une grande boucherie, c'est-à-dire une espèce de transgression du tabou du meurtre, quoi, de l'interdit du meurtre. Les gens, en fait, c'est terrible, quoi, quand même, parce que c'est des assassinats qu'ils font et en masse, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'à partir du moment où il y a cette transgression du tabou du meurtre qui est autorisée qui est légitimée plus exactement par la science et qui est mise en place par les États vers 1900, bah, ça ouvre, bon, je vais le dire en termes philosophiques, ça ouvre, comment dire, une voie à la transgression de ce tabou, mais sur une grande échelle. Et c'est ça qui peut, c'est ça en fait, qui explique que comment dire, c'est un des ressorts du nazisme, quoi. Et ça, on ne le dit pas, on ne le dit jamais. C'est un des ressorts du nazisme. Après, il y a, aujourd'hui, je ne pourrais pas en parler, mais je vais juste dire un mot, là, pour terminer, pour venir à aujourd'hui. C'est qu'en fait, là où nous aide aussi la psychanalyse, dans un autre champ que la psychanalyse nous aide, c'est que en fait, chacun d'entre nous en a un imaginaire, moi comme vous. Et en fait, aujourd'hui, quand on compare, par exemple, moi je connais bien l'Afrique, l'Afrique noire, l'Afrique du Nord, etc. Et ce que je veux dire, c'était surtout valable il y a 40 ans, parce que maintenant ça commence à se rapprocher. Mais par exemple, en Afrique, on pouvait dire encore il n'y a pas longtemps que le capitalisme avait glissé sur les Africains comme l'eau sur les plumes d'un canard. Ça ne marche pas, quoi. Ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Ça n'avait pas pris jusqu'à, je dirais, en tout cas jusqu'à il y a 40 ans, c'est sûr. Parce que ça n'avait pas structuré la mentalité des Africains. Ça n'avait pas structuré. Par exemple, moi, je me souviendrai toute ma vie. En 1978, j'étais dans le sud de Tunisie, à Matmata. C'est un site célèbre avec des habitations troglodytes. Je me baladais, je regardais comment ils faisaient pour monter dans leurs habitations en haut. Il y avait les greniers pour protéger les rats. On mettait le grain. Les greniers n'étaient pas en bas, étaient en haut, les habitations étaient en bas, mais comme c'est un pays vachement chaud, à l'intérieur il faisait vachement frais, et puis il y a des Tunisiens qui m'ont invité à boire le thé, et puis invité à boire le thé, ça durait 4 heures, quoi. Juste boire le thé, 4 heures, parler, etc. Et donc moi à l'époque je me disais, punaise, mais ils ont une autre conception du temps que nous, quoi. Ils ont une autre conception de l'espace que nous. Ils ont une autre conception de la vie que nous, quoi, totalement différente, quoi. Et c'était tout à fait juste cette réflexion que je me faisais. Et c'était le cas dans plein d'endroits encore dans le monde. Ça veut dire, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est, je vais terminer là-dessus, c'est que ce qui est en résonance avec ce qu'on vit aujourd'hui et le capitalisme qu'on vit aujourd'hui, c'est qu'en fait, nous, en tant que, qu'on le veuille ou non, vivant dans cette société, notre imaginaire, il a été structuré, et alors là, je vais dire des gros mots, il a été structuré par la rationalité calculatrice. C'est-à-dire, en fait, que dans tout, chaque instant de la vie, on calcule tout. On calcule par rapport à son boulot, on fait des stratégies et des tactiques professionnelles, on fait des stratégies et des tactiques dans l'amitié, on fait des stratégies et des tactiques dans l'amour, même si quand on va sur Mythique, on y va parce qu'on pense qu'il y a des serveurs qui ont des collections de big data super et que donc du point de vue statistique, on a plus de chances de rencontrer l'âme sœur sur Mythique que en bas de la rue. Donc, en fait, on calcule absolument tout. Et en termes psychanalytiques et en termes philosophiques, moi j'appelle ça un imaginaire. C'est plus du tout l'imaginaire des gens d'aujourd'hui, surtout en Europe, n'est pas le même que l'imaginaire des gens en Europe en l'an 1300 ou 1400. En l'an 1300 ou 1400, l'imaginaire des gens, et notamment des paysans, mais même des petites villes qui existaient à l'époque, c'était pas la rationalité calculatrice, c'était la religion, c'était Dieu, est-ce que je vais aller au paradis ou en enfer? Et puis toute sa vie, elle était, suivant l'endroit où on était né, suivant la classe, entre guillemets, dans laquelle on était né, l'avenir était tracé, et puis on exerçait un savoir, un métier, etc. etc. Et l'imaginaire, c'était pas du tout un imaginaire structuré par la rationalité calculatrice, pas du tout. Mais j'ajoute juste une chose, et vraiment là je termine là-dessus, c'est que en fait, et ça c'est très 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 important aussi, c'est que la rationalité calculatrice, c'est comme le capital, c'est comme la valorisation de la valeur, c'est illimité, rien ne peut l'arrêter. Je peux le dire autrement, rien n'arrêtera, certains disent comme ça, rien n'arrêtera la science. Et effectivement, rien ne peut arrêter la science. Et ça veut dire que là aussi, il va y avoir une grande conjonction entre le mode de connaissance scientifique et le capitalisme. Ils ont le même fantasme, c'est l'homme augmenté ou le transhumain qui sera, à travers l'ubérisation, son auto-exploiteur. Et comment dire, ça, ce que je dis là, c'est très vite dit, ce que je vais y revenir, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite au mode de connaissance scientifique, ça veut dire que tout, par exemple, vous savez, il y a les anneaux du CERN qui sont sous Genève, là, qui permettent d'identifier le boson de Higgs ou d'autres particules ou autre chose. Dans ce grand anneau qui fait, je ne sais pas combien, plus de 20 km de...
27 km
27 de tour. De circonférence. Bon, eh bien, moi, la conclusion, c'est arrêtez avec vos conneries, quoi. C'est-à-dire, et les gens qui sont en train d'essayer de fabriquer de la viande artificielle, ou les gens qui sont en train de fabriquer des... comment dire, un clonage des êtres humains, etc. C'est-à-dire, ce mode de connaissance scientifique qui veut tout transformer, toute la vie en abstraction et en choses abstraites, il ne peut pas y avoir de limite à ça. C'est impossible. Les comités d'éthique, même en France, qui est le plus vieux, ça fait plus que 30 ans que ça existe, ils n'ont jamais réussi à s'opposer à ça. Ils ne pourront pas, aucun comité d'éthique au monde ne pourra pas s'opposer au fait qu'un jour, on essaiera de cloner les êtres humains si ce n'est pas en voie de réalisation, etc. etc. Ce qui, en fait, l'essence même de l'humanité, de ce qui fait un être humain, c'est-à-dire par exemple le fait qu'il y a la reproduction sexuée, qu'on ait une vie et une mort au bout de tant d'années, etc. Tous, c'est-à-dire ce mode de connaissance scientifique, par essence, il est inarrêtable. Inarrêtable. C'est dans l'illimitation. C'est exactement la même chose que le capital, c'est-à-dire, quand j'ai montré au début qu'il y avait une identité de structure entre les deux, c'est-à-dire tous les deux transforment le vivant en quelque chose d'abstrait, et quelque chose d'abstrait, ça veut dire quoi? Quelque chose qui peut circuler dans les tuyaux le plus rapidement possible, plus ça circule vite, mieux c'est. Et là, il y a, comment dire, c'est ça qui est très important, c'est que ce que je disais, qu'il y a l'identité de structure entre le capital et puis le mode de connaissance scientifique, en fait, ce qui soutient cette identité de structure, c'est une identité de structure à l'intérieur de nous-mêmes aussi. C'est-à-dire le fait que nous ayons un imaginaire structuré par la rationalité calculatrice, d'un certain côté, on supporte ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, on est les supports de ça. Parce que vous pouvez le retrouver dans tous les moments de votre vie, ça. Je peux vous donner un exemple personnel. Moi, j'ai été façonné par ça, en fait. Les études techniques, par exemple. Enfin, j'ai pas fait que ça, mais bon, heureusement. Mais des études techniques ou d'ingénieurs, vous voyez tout à travers la technique et la rationalité calculatrice, en fait. Tout. Et quand, par exemple, chez moi, je me suis mis à refaire l'appartement dans lequel je suis, en fait, je voulais faire un appartement, comment dire, qui répondent à trois choses, je vais appeler ça comme ça, faire une place à la beauté, à la musique et à l'amour. Ça, c'était mon point de départ pour refaire tout l'appartement. Et en fait, je me suis aperçu, quoi? Que tout ce que j'imaginais au départ de ce travail, après ça a changé, mais au départ de ce travail, en fait, je calculais tout et j'avais des réflexes techniques. Et j'essayais d'avoir, quand il y avait une question qui se posait, c'était une solution technique qui venait, et pas du tout une solution du côté esthétique, par exemple, ou de la création. Bon, après, je me suis aperçu de ça dans moi-même, quoi. Et bon, j'ai essayé de m'en... Le design, par exemple, la mode du design, c'est ça, quoi, dans les appartements, la mode du design, c'est-à-dire, c'est un truc qui est une beauté lisse, et qui est facile à reproduire au niveau industriel. Bon, mais vous pouvez la retrouver, si vous réfléchissez à ça, en vous-même. Mais moi aussi, je n'échappe pas à ça. Hein. Bon, sauf que je suis passé par la psychanalyse. Et bon, ça donne un peu de distance par rapport à ça. Simplement un peu de distance. Mais je finis là-dessus. Vous voyez bien que quand on fait l'analyse du mode de connaissance scientifique comme quelque chose qui nous conduit à une abstraction déshumanisante. Et quand on fait l'analyse du capitalisme comme quelque chose qui nous conduit aussi à une abstraction déshumanisante, et qu'en nous, on a quelque chose d'un imaginaire qui est en écho par rapport à ça, alors je veux dire ça. Ça ne veut pas dire que la porte est fermée et qu'il faut désespérer, pas du tout. Parce que justement, et ça je ne vais pas en parler, l'imaginaire c'est quelque chose qui peut se retourner d'un moment à l'autre. Les gens qui ont vécu des événements historiques importants comme 36, comme 1945, ou 1968, ou comme le CPE à une moindre échelle, quand il y a des expériences historiques importantes, des événements historiques importants, qu'est-ce qu'on voit dans les événements historiques? En fait, c'est l'imaginaire de tout un chacun qui bascule. Mais ça peut se faire très vite. Ce que je veux dire par là, c'est que l'imaginaire qui aujourd'hui soutient ce système, ce n'est pas un imaginaire qui est là ad vitam aeternam. D'abord, il n'a pas existé de toute éternité. Ce n'est pas le même imaginaire dans les êtres humains. Et qui dit demain que ça ne peut pas se renverser? Il suffit d'une simple chose. C'est que toute la vie qu'on a vie aujourd'hui, par exemple, si la société était bloquée par rapport à la loi El Khomri, là, comme certains le souhaitent, quand plus rien ne fonctionne comme avant, à ce moment-là, tous les gens, vous comme moi et n'importe qui, on est déstabilisés, on pourrait dire ça comme ça. Et là, on commence à réfléchir autrement. C'est un peu comme quand on est amoureux, si vous voulez. Quand on tombe amoureux ou amoureuse, on a soit sa vie habituelle, etc. Et paf, il y a un événement hyper fort qui bouleverse votre vie, en fait, qui vous fait voir les choses d'une manière différente. C'est un petit peu comme ça. Mais ce bouleversement de l'imaginaire-là, il est politique quand il y a des événements comme ça, de grands événements historiques, il est politique. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai écrit, par exemple, un tract que je distribue à la République, on dit qu'il faut tout bloquer, quoi. Parce que c'est la condition. Ce n'est pas la condition suffisante, mais c'est une condition nécessaire pour qu'on envisage la vie d'une autre manière. Et je termine. 15 fois que je dis je termine. Oui, je dis une chose. Là, je n'en ai pas du tout parlé. Mais par exemple, je suis un très très bon connaisseur de ce qu'est l'industrie nucléaire. Et je dis, par exemple, qu'à partir de 1945, c'est une date historique où le capitalisme produit la mort, en fait. La mort, c'est même l'essence de la marchandise. Et donc, enfin, plus exactement, il a déclaré une guerre généralisée aux vivants. Il fait une guerre généralisée aux vivants, mais sans la déclarer. C'est-à-dire en douce, quoi. Mais c'est une guerre généralisée aux vivants. Dans tous les aspects, hein, tous les aspects. C'est-à-dire, l'agriculture industrielle, c'est une guerre à la terre. Ça empoisonne la terre, ça empoisonne le blé, les semences, les arbres fruitiers, les légumes, etc. Ça empoisonne les petits animaux qui sont sous terre, les vers de terre. Ça empoisonne les grands animaux et ça empoisonne les êtres humains. Et ça empoisonne l'atmosphère, ça empoisonne tout. Et c'est ce qu'on a appelé la révolution verte. C'est ce qu'on a appelé la révolution verte et les 30 glorieuses. Donc, bon. Et en fait, l'analyse que je fais du capitalisme, c'est que c'est une guerre généralisée aux vivants. Maintenant, ceux qui s'occupent du climat disent aussi la même chose. Et en fait, ce qui est en jeu, c'est la pérennité du monde. Ce que moi je dis, c'est en fait, le capitalisme, c'est quelque chose qui mène le monde à sa perte. Et l'argument philosophique, enfin, la réflexion philosophique par rapport à ça, qui vient tout de suite après ça, il n'y a pas d'autre moyen de rester humain que de s'opposer radicalement à cette radicalité. C'est-à-dire, si on est d'accord sur le fait que le capitalisme mène le monde à sa perte, en fait, à travers la déshumanisation évidemment, même la désanimalisation, on pourrait dire même aussi l'empoisonnement de la terre, etc. Il n'y a pas d'autre moyen de rester humain que de s'opposer au jour le jour à ce système-là qui veut amener le monde à sa perte. Et en plus, il n'y a pas d'autre issue pour empêcher ça que de s'y opposer, mais jour après jour, quoi. Et de manière radicale. Alors, manière radicale, ça ne veut pas dire que je vais prendre une Kalachnikov, un machin. Manière radicale, ça veut dire s'opposer, chacun à sa manière, mais à faire en sorte d'arrêter ce système, d'arrêter totalement ce système et dans le monde entier, quoi. Et voilà. Bon, je n'ai peut-être pas dit de manière. Bon, et. vous savez quoi,
l'applaudissement.
Non, mais une fois.
Vertical, en fait, du coup, on en parlait tout à l'heure. On parlait des mots qui nous faisaient un petit peu peur, en fait, avant de venir ici. C'était séminaire, et moi, c'était radical. Et en fait, sur vos dernières lignes, là, je comprends un petit peu mieux pourquoi vous dites radical.
En fait, ce que je dis, c'est aussi par rapport, même quand on bosse, par exemple, même quand on travaille au jour le jour dans n'importe quelle boîte, etc. C'est-à-dire, en fait, on ramassait plus rapidement, c'est-à-dire par rapport à la hiérarchie à laquelle on se trouve toujours confronté, quoi. C'est quand la hiérarchie comprend que vous, vous n'êtes pas un paillasson et que vous êtes un être humain et qu'on ne va pas vous faire, on ne va pas pouvoir vous faire avaler n'importe quelle couleuvre, à ce moment-là, elle commence à respecter, vous respecter en tant que personne. Et ils vous considèrent plus comme une variable d'ajustement dans le management.
Ouais. Ça restera très précaire.
Sauf à ce qu'on arrive à installer ce rapport de force dès le départ avec la hiérarchie. Et après, il se peut qu'on ait affaire à des hiérarchies.
Le problème, ça reste le salariat qui est un chantage. Quoi. C'est surtout ça. C'est qu'on s'entende bien, qu'on est régularisé ou pacifié. Ouais. Les relations avec le N plus 1 ou plus 2.
Oui, mais Félix, oui, c'est vrai, sur le fond. Mais la question, le fait, pour tout le monde au jour le jour qui est salarié aujourd'hui, le problème, c'est de résister au jour le jour, en fait.
Bien sûr.
Parce qu'il y a une pression. Et aujourd'hui, par exemple, c'est par rapport à l'informatique dans les boîtes, etc. C'est qu'aujourd'hui, grâce à l'informatique, les gens sont plus enchaînés aujourd'hui à leur boulot que les ouvriers de l'industrie textile du début du 19e siècle. Parce qu'effectivement, ils peuvent emporter leur ordi et répondre à la messagerie le soir et le week-end. Quoi.
Le patron peut t'appeler dans les chiottes.
Parfois,
ça ne passe pas dans les chiottes non plus.
D'où l'expression.
Alors que si la loi elle ne dit pas, il y aura un droit à la déconnexion.
C'est de l'humour. Hein.
Les temps modernes, par exemple, te présente bien le patron qui peut surveiller. Il y a déjà des écrans. C'est les années 30, hein, je crois, les temps modernes. Il y a déjà des écrans
35.
Où on peut 35 où ouais. On peut surveiller le grand patron peut surveiller ce que fait un tel. Pousse la machine à 15 ou à 33, 3500. La vision de Chaplin de ce qui nous pendait au nez.
La pire expérience, c'est aussi de vivre là où on travaille parfois. Ça m'est arrivé et c'était vraiment infernal. Quoi,
de vivre dans le lieu de travail ?
Ouais. Ça m'est arrivé deux fois. Et,
dans quel cadre ? Quel type de boulot ?
Alors, il y en avait un, c'était la restauration. Et celui d'avant, c'était des ventes de peinture, enfin de toiles en peinture à l'huile. En fait, en peinture à l'huile, mais des ventes en porte-à-porte. Géré par une espèce de mafia israélienne, enfin un truc vraiment trop bizarre. J'ai vraiment eu du mal à en sortir. Ouais, non, c'est vraiment très, très facile d'y accéder, enfin d'y rentrer. Mais par contre, pour en sortir, ça devient vraiment compliqué. Quoi. C'est,
pour en sortir
Au niveau de la manipulation, c'est on est une grande famille, on va te privilégier sur tel point. Enfin, ils nous offrent plus en fait pour nous garder, mais il y a toujours quelque chose derrière. Quoi. Donc il y avait des choses vraiment très très gauche dans cette organisation qui au final n'était pas légale. Enfin, j'ai découvert pas mal de choses, j'ai lu une petite enquête, mais c'est vraiment très spécial.
Donc ça, c'est le côté carotte. Y avait-il un côté bâton? C'était de perdre ton emploi.
Le problème, c'est que si je voulais quitter mon travail, je perdais ma maison aussi. Sachant que c'était une jolie maison en plus, donc on nous offre pas non plus n'importe quoi. C'est vraiment une maison avec vue sur la mer, donc tout pour nous épater. Quoi.
D'accord.
C'était très très spécial.
Et la restauration, c'était des horaires tels que tu devais rester
C'est-à-dire que parfois je pouvais dormir pendant mes journées off et en fait on cogne à ma porte et pas me dire faut que tu viennes quoi. On a besoin de toi, on ne peut pas gérer autrement.
T'habitais à l'étage
Du coup je partais tout quand j'avais mes journées off, quand j'en avais, parce que c'était très rare.
Tu t'échappais le plus vite possible.
Je partais avant 10h avant que tout le monde arrive en fait, avant que le patron arrive. Et voilà, j'étais pas là, j'avais pas de téléphone pendant 8 mois. Personne ne pouvait me joindre quand j'étais à l'extérieur. Et voilà, c'était très bien comme ça. Quoi. C'était vraiment très bien comme ça. Quoi.
J'adore le vocabulaire qu'on emploie dans ces boîtes, c'est-à-dire les journées off.
Off, ouais.
off, ça veut dire que tu n'as plus rien du tout, puisque tu n'es pas au travail. Tu es off, tu es court-circuité, quoi. Ouais, oui. Tu n'es pas au travail. Tout, tout se fait par rapport au travail. Ce n'est pas des journées de repos ou de vacances.
Non, off.
Tout ouais. le langage qu'on utilise, hein, ouais. c'est la neuve langue.
Ouais.
Précaire, étymologiquement, ouais, ça veut dire obtenu par la prière. Quand on y pense, on sait.
Oui, ça veut dire obtenu par la prière.
Étymologiquement, c'est assez saignant.
C'est difficile.
J'ai reçu un mail, là, je ne sais pas si hier ou quoi, et je n'ai plus en mémoire, mais c'est quelqu'un qui attirait l'attention sur le fait qu'il y avait un responsable de Google France qui s'appelait quelque chose comme... le grand cardinal ou un truc religieux quoi de Google France. Il avait ce titre, c'était le titre officiel dans Google. Il y avait un titre religieux, j'ai oublié là maintenant, c'est un titre religieux quoi.
Le grand dragon du clan.
En plus, eux, par exemple, ils sont à fond dans les trucs de transhumanisme, etc. Ah oui. Truc,
ouais.
Ah oui. En Suède, là,
ils sont très plus.
Ça, ce que tu dis, c'est par rapport à l'imaginaire, c'est vrai que j'ai l'impression qu'on ne le vit pas à son corps dépendant. Tous ces messages, tous ces effets d'annonce sur le fait d'augmenter la durée de vie, de pouvoir se transformer petit à petit, on y va un petit peu par à coup, parce que d'annoncer ça, alors qu'on sait très bien qu'on peut déjà cloner des gens, et que je me demande si tu as déjà fait. Moi, quand je reçois ça, j'étudie ce qui se passe en moi, je me dis, mais est-ce qu'on ne va pas chercher quelque chose en nous, justement, enfin, ça résonne avec cette illimitation qui est présente, y compris dans la façon de se représenter la vie, par rapport au fait qu'elle ait un début, une fin, qu'il y ait un rapport à la mort, tout ça.
Mais moi, quand j'entends des informations comme ça, par exemple, chez moi, ça devrait provoquer une horreur, ça ne provoque pas d'horreur. C'est-à-dire, c'est par le détour intellectuel, c'est par la pensée que je m'oppose à ça. C'est-à-dire, par exemple, des gens qui annoncent, qui ont, enfin bon, alors je n'ai pas l'expérience vraiment de ça, mais quand on annonce des trucs, je sais pas, sur Internet ou à la radio, qu'il y a des expériences qui ont été faites, ça t'est envoyé de manière neutre. Le discours, il est neutre, quoi. Et ça te provoque pas une indignation. Enfin, moi, j'ai pas remarqué d'indignation et de sentiment de dégoût, quoi, par exemple, ou d'horreur en moi. Rarement. Moi, je le fais par le détour intellectuel, parce que par exemple, tout ce qui est scientifique. Par exemple, aujourd'hui, des gens qui veulent dire que toute leur parole est crédible. Tout leur discours finit en disant c'est prouvé scientifiquement. Vous remarquerez ça. C'est prouvé scientifiquement.
Les mêmes choses. Moi,
nous, on l'a intériorisé, ça.
Et là, c'est un truc qui n'a rien à voir, mais qui moi, me taraude toujours. C'est des questions un peu. Ces questions bêtes qu'on se pose parfois pour voir un peu pour provoquer quelque chose, mais c'est. Est-ce que par exemple, moi j'ai l'impression que cette histoire de conquête de l'espace, par exemple, tout le monde y a acquis. On a réussi, le discours scientifique a réussi à inclure tout le monde dedans. D'ailleurs, c'est très opportun.
Surtout à une époque, hein, plus tellement maintenant.
Oui, mais alors, parce que maintenant, on sait qu'il y a des problèmes d'argent et d'investissement là-dedans, mais je me dis toujours, on a l'impression que c'est l'ultime fin quand même, c'est la fin ultime. Du système actuel, ce que et parfois c'est même la voix off dans les reportages sur les planètes, quand les hommes auront épuisé toutes les ressources, ils partiront à la conquête.
Oui.
Il y a déjà parti.
Qui?
Minable.
Ah, c'est lui. Minable, oui. Mais est-ce que par exemple, parce que ça c'est aussi un truc un peu merveilleux et terrifiant à la fois que dans le discours de l'URSS, c'est est-ce que la conquête de l'espace est compatible avec une société non capitaliste? La réponse est non, aucunement.
L'espace ne sera pas conquis. Hein.
Mais, non, mais la conquête, par là, pardon. La déambulation, la promenade intersidérale, l'ouverture vers nos amis.
Planifié.
Félix, c'est complètement idiot.
Ça fait penser à l'Everest.
Sur la Lune, mais sur l'espace.
Ça fait penser à l'Everest. Tu as 50 personnes ou 100 personnes qui vont chaque année au sommet de l'Everest. C'est tout. D'abord, on ne peut pas. On ne veut pas y vivre. Quand on y va, on y reste 10 minutes à tout casser. Parce qu'au-delà d'un quart d'heure, bah, tu n'es pas sûr de
pouvoir... Par contre, les flancs de l'Everest sont devenus une gigantesque poubelle.
Bien sûr. Et comme la Lune...
Oui, bien sûr.
Non, mais par contre, ce que je veux dire là, moi, c'est pas tant la question de la faisabilité de ça, mais c'est un des discours de cautionnement et de, si tu veux, de justification de ce qui se passe par ailleurs.
Oui.
C'est ce qui oriente.
Alors, c'est ce qu'on nous vend.
Le nucléaire est l'épicéné de la science
du XXe siècle.
Parce que cette histoire de conquête de l'espace avec toute la recherche qu'on continue de mener quand même sur les moyens de propulsion, sur la survie pendant des... n'est pas aussi un des régimes de un
oui.
des discours de légitimation.
Voilà, ça. Il n'y a plus d'espoir, parce que bon, là, au niveau religieux, si tu veux, il y a la structuration de l'imaginaire de l'homme du Moyen-Âge. Ben, il y avait l'espoir de la rédemption, du paradis, etc. Aujourd'hui, il y a plus ça, ou c'est complètement minoritaire, ou alors c'est instrumentalisé dans les guerres de type Daesh, comment dire, ça a été recyclé, parce que l'être humain, il a besoin quelque part d'idéal, et notamment les adolescents, ils ont besoin d'idéal, on a besoin de spiritualité. L'être humain, il ne vit pas seulement, les nourritures terrestres. On a besoin d'amour, on a besoin de spiritualité, on a besoin de culture, etc. Et ça, et la science est le vecteur de ça. En plus, il y a le progrès derrière. Mais ce que tu allais dire, je vais le dire quand même pour vous et d'autres qui le savent. Les autres qui ne le savent pas.
Tu sais mieux faire que moi je ne suis pas très douée.
Il n'y a plus un des manuscrits que j'avais laissé, ils sont tous partis. Hein. Il y en a un. Tu as retrouvé le passage sur la Lune. Il y a un truc que peu de personnes savent. C'est que quand, en 1969, quand Apollo 12, si je me souviens bien, non, Apollo quelque chose, est arrivé sur la Lune avec Neil Armstrong et puis les autres, le grand titre des journaux, des télés, etc., c'était « Un petit pas de l'homme sur la Lune, un grand pas pour l'humanité ». L'envers du décor, le voilà. Je vais vous le dire, l'envers du décor. L'envers du décor, c'est que la relation entre les astronautes et la Terre devait être assurée. Donc, jour et nuit, le jour lunaire, d'accord, on pouvait déployer les panneaux, mais la nuit, pas de panneaux. Donc, l'alimentation...
Il ne peut pas rester longtemps, de toute
façon. Oui, mais là, et après, mais de toute façon, l'alimentation des instruments qu'ils ont laissés sur la Lune, c'était assuré par une pile qui fonctionnait. Qui fonctionne, je ne sais pas si elle fonctionne encore, au plutonium 238. Donc à chaque mission Apollo, l'homme qui a fait un grand pas, il a laissé sur le sol lunaire entre 3 et 4 kilos de plutonium 238, qui est la matière la plus dangereuse et la plus toxique que l'homme ait jamais inventée. Donc en fait, cet homme qui a fait un grand pas, je sais pas où, en tout cas il a considéré la Lune comme une poubelle en laissant ses détritus radioactifs donc ça veut dire, bon, tout de suite ça donne l'envers du décor que personne ne dit jamais, quoi.
Je te casse la baraque.
Oui,
le plutonium est 239, c'est pas grave. C'est 239, hein, je crois. Tu es d'accord?
Faut regarder.
C'est
là.
C'est pour le
ben, non, oui, normalement, oui, mais j'ai un doute. Faut regarder.
L'uranium 238.
Il y avait des photos aussi avec.
Non, mais c'est juste pour t'embêter, Jean-Marc.
Non, 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 mais.
Non, ce que tu dis est tout à fait vrai. Hein.
Oui, oui,
quelques microgrammes suffisent à détruire les trucs.
Non, non, mais en plus les trucs, j'ai été les chercher dans les archives de la NASA, donc bon, je suis assez sûr de moi. Mais pas sur le plutonium, mais sur le fait qu'effectivement, oui, ça s'appelle l'ALCEP d'ailleurs.
Les Russes ont fait les mêmes choses, ils ont envoyé des satellites qui contenaient des piles nucléaires, bon, et c'est retombé en pluie sur la Terre tranquillement.
Non, mais c'est juste pour dire l'envers du décor de ce qu'on nous présente comme une grande avancée de l'humanité et de la science. Quoi.
C'était pas censé partir, ne pas être en orbite.
Si, mais les orbites, quand elles sont basses, elles durent un certain temps. Après, c'est freiné.
On va les mettre en orbite haute.
Oui, mais dans ce cas-là, il faut relancer des fusées pour les relancer plus haut. Ok.
Puis à dire que tôt ou tard, les satellites redescendent. Non.
Alors, non. Pas forcément, ils peuvent être envoyés ailleurs. De toute façon, on sait maintenant que l'espace est instable. On sait que la Terre n'a pas toujours eu la même orbite et n'aura pas toujours la même orbite. À l'échelle de quelques dizaines de millions d'années, ça va changer. On le sait. On le sait astronomiquement parce qu'il y a un gars qui travaille à l'Observatoire de Paris qui a démontré ça il y a maintenant une vingtaine d'années. Et c'est un truc très très fort. Bon, la Lune, c'est en train de s'éloigner de la Terre. Dans un million d'années, il n'y aura plus d'éclipse de soleil sur Terre. Voilà. Même si même les œuvres auront disparu de l'année, probablement, mais il n'y aura pas non plus d'éclipse de soleil sur Terre, parce que la Lune sera trop loin. Donc la taille de la Lune ne masquera pas complètement le Soleil.
Donc la Lune va s'éloigner.
Elle s'éloigne de quelques centimètres, je crois, tous les ans. Enfin, c'est que dalle. Mais à des échelles géologiques, bon, ça marche comme ça. Je voulais juste signaler, par rapport à ce que tu as dit sur la transformation de l'être humain, le progrès de l'être humain vu par les industriels, il y a un roman de science-fiction qui est paru il y a une quarantaine, une cinquantaine d'années, qui s'appelle Jack Baron et l'éternité. Peut-être ça vous dit quelque chose.
Ouais.
Bon, ça a été fait par un Américain qui s'appelle Norman Spinrad. Spinrad, S-P-I-N-R-A-D. En anglais, c'est Jack Baron. Bug Jack Baron, c'est-à-dire emmerder Jack Baron, faites-le suer. Les 10 premières pages sont quelquefois difficiles à lire parce que la traduction, elle est un petit peu, même en anglais, c'est dur à lire. Mais après, on rentre dedans. C'est un roman de science-fiction. Ou, enfin, vous verrez. Bon.
comment s'appelle le bouquin là ?
Jack Baron.
J-A-C-K.
Baron, je crois que ça prend deux R. B-A-2-R-O-N.
Ouais.
Et l'éternité.
Et l'éternité.
Et l'éternité en français. Et là, il s'agit de... Bon, Jack Baron, c'est un présentateur de télévision extrêmement populaire, et il découvre des trucs en interviewant des gens. Et on essaye de le mettre dans le coup, entre guillemets. Et vous verrez, je vous le recommande vivement. C'est dur d'entrer dans les 10 premières pages, aussi bien en anglais qu'en français, parce que je voulais savoir si c'était bien traduit. Et effectivement, c'est un petit peu dur de rentrer dedans, parce que le style de Spinrad est très particulier.
Il y a un autre roman que moi j'aime beaucoup, quoi, dont j'ai déjà parlé, qui s'intitule Un bonheur insoutenable.
Ah oui, de Ira Levin.
Ira Levin.
Oui. Mmh. Mais ça, il est très positif. Très,
Ira
très...
Levin ?
Oui, un bonheur insoutenable, ça se termine bien.
De notre point de vue, oui.
Oui,
il ne faut pas dévoiler la fin. Hein.
Non, non.
mais c'est, si vous.
Oui, alors, notez-le aussi, vous le jure. Je suis tout à fait d'accord avec Jean.
Beaucoup de personnes qui lisent ce roman en fait, c'est un roman, moi, ce que j'appelle un texte fondateur. C'est un roman fondateur. C'est une dystopie, si on veut. Mais c'est donc. On ne peut pas le trouver. Il n'est plus en vente, il est épuisé. Mais parfois, on peut en trouver des exemplaires d'occasion sur Internet, par qui vous savez. Et il est téléchargeable en PDF. Après, bon, il faut l'imprimer. Mais c'est un truc qui est...
oui, c'est très chouette.
C'est un excellent roman parce qu'il est anticipateur. Il a été écrit en 1970. Il est anticipateur de plein de choses qui se passent aujourd'hui. Quoi.
C'est l'histoire d'un type qui est un peu marginal dans sa société. Voilà.
Je n'ai pas suivi la
suite. Il est un peu le
roman.
Un bonheur insoutenable.
Il a deux yeux. Tu le connais peut-être ? Tu les vois ? Il a deux yeux qui ne sont pas de la même couleur. Bon, en tout cas,
moi, ça me parle plus que 1984 ou Le meilleur des mondes.
Ouais.
Oui, oui, oui. 1984, c'est l'URSS, bon, c'est peut-être très très clair.
Mais moi, ça m'a beaucoup plus branché.
Ah oui, moi aussi. Dans Soutenam, moi aussi, pour moi, c'est... Outre roman de science-fiction, il y a Les Dépossédés, d'une dame qui s'appelle Ursula Le Guin.
Ça, c'est aussi un roman de science-fiction ou une dystopie ?
Alors, oui, oui, oui.
C'est une dystopie, est-ce
que... Oui. Les Dépossédés, de Ursula Le Guin. Ça, c'est un bouquin qui m'a bouleversé, qui a beaucoup marqué mon évolution politique.
Ah oui.
En gros, tous les dissidents sont envoyés sur la Lune, sur une Lune, sur la Terre, enfin ce qui est resté de la Terre. Il y a trois nations qui s'affrontent, qui sont clairement l'URSS, celle de l'époque, la Chine et les États-Unis. Et les gens qui sont sur la Lune, bon, c'est des marginaux, puisqu'ils ont été envoyés en prison sur la Lune, et il faut qu'ils se débrouillent. Et ils se débrouillent en inventant une autre société, qui est une société libertaire. Et là, on rentre dans les contradictions d'une société libertaire, avec tous les trucs positifs, les tentatives de prise de pouvoir, etc. C'est, je vous le recommande aussi vivement. Voilà. Et Ursula Le Guin, à part ça, c'est une femme qui est la fille des anthropologues qui ont recueilli le dernier indien de Californie. C'est dans un roman qui s'appelle un roman qui retrace l'aventure de ce dernier indien qui s'appelait Ishi. Le bouquin, tu le connais peut-être, il est paru à Terre Humaine. Et ses parents s'appelaient les Kreuber, et ils ont recueilli ce dernier indien, les dernières années de ce dernier indien, qui était l'unique survivant d'une petite tribu minuscule, qui avait été exterminée, bien sûr. Et elle, c'est la fille, cette femme qui écrit de la science-fiction, qui doit maintenant avoir 80 ans, 90, je ne sais plus, bon, elle a pondu des bouquins de science-fiction qui sont très très chouettes au niveau anthropologique. Les Dépossédés, c'est... pourquoi ça m'a... Ça m'a beaucoup marqué, peut-être que ça vous marquera, je vous recommande en tout cas. Voilà.